France Musique. Musique Matin et notre cher Jean-Baptiste Urbain.
Merci et bonjour à tous. Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Le silence des orchestres, jusqu'à quand? C'est le titre d'une tribune interrogative publiée par Libération il y a quelques jours. Son auteur, l'historien de la musique Mathieu Schneider, s'interroge sur les conditions de la reprise d'une vie symphonique en France. Il sera, Mathieu Schneider, notre invité à 8h50. Quand les compositeurs français se réunissent, 170 d'entre elles et d'entre eux annoncent la création d'une fédération professionnelle. C'est au programme de Classique Info avec Sophie Anastasio. Rendez-vous à 9h20. Les chasseurs et les vacanciers vont-ils se retrouver sur le même terrain de jeu? Une pétition lancée par des défenseurs des animaux et de la nature demande au gouvernement de ne pas précipiter en autorisant dès le début du mois de juin le tir des gros gibiers. C'est l'un des titres du journal d'Olivier Denré à 8h30. Et puis beaucoup d'enfants n'ont pas repris ou par intermittence le chemin des écoles. Et si vous leur faisiez écouter des contes musicaux, Suzanne Gervais en a déniché quelques-uns. Elle nous les présente à 8h25.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, ouvrez grand vos pavillons, c'est Bach que chante l'ensemble Pygmalion. Jean-Sébastien Bach, la fin de sa Missa Brevis en sol majeur avec les chanteurs et les musiciens de l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Jean-Sébastien Bach par les mêmes musiciens, c'est le programme du concert de 20h ce soir, baroque comme tous les mardis sur France Musique avec Clément Rochefort, un programme cette fois autour des motets du cantor et non pas des mentors du cantet. Concert enregistré à la Cité de la Musique à Paris. Va-t-il se révéler un concurrent sérieux pour France Musique? Le Prince Charles, en tout cas, est aujourd'hui l'invité de Classique FM. Il participe à l'émission d'entretien de la radio britannique, un peu comme Musique et Moi, sur France Musique, tous les dimanches à 11h avec Elsa Boublil. Le Prince de Galles, qui va évoquer sa passion pour la musique classique. Vous ne le savez peut-être pas, mais il a appris la trompette, le violoncelle. Il a même joué au sein de l'orchestre du Trinity College de Cambridge. Et puis, demain, toujours chez nos collègues anglais, de Classique FM, son Altesse Royale passera de l'autre côté. Il va animer une émission de 2 heures où il va diffuser certaines de ses œuvres préférées. Alors, quels sont les goûts du prince Charles? Eh bien, il a l'âme romantique, il a choisi les 2 concertos pour piano de Frédéric Chopin. L'âme lyrique aussi, puisqu'il diffusera les 4 derniers leaders de Richard Strauss. Et puis, l'âme patriote, bien sûr, puisque Charles a aussi choisi de diffuser le concerto pour piano en mi bémol majeur de Julius Benedict. Julius Benedict, c'est un compositeur du 19e siècle, certes né en Allemagne, mais naturalisé anglais. Alors, le prince Charles n'est pas ce matin sur France Musique, mais on a son choix musical. Voici le rondo de son concerto de Julius Benedict. Thank you. La musique de Julius Benedict Rondeau Brillant de son concerto en mi bémol majeur. C'était Howard Shelley au piano, à la tête de l'orchestre symphonique de la Tasmanie. Et oui, ça fait rêver, le choix donc pour nos camarades britanniques de Classique FM. Choix de His Majesty Prince Charles. Very good choice, prince. Alors après le choix royal du prince de Galles, voici celui d'Aliette Delalleux, tous les samedis dans France Musique est à vous avec Gabriel Oliver Aguillon. Aliette nous propose un tour du monde des musiques traditionnelles, c'est à 10h05. Aliette qui promeut depuis des années ici et ailleurs, et elle a bien raison, la musique des compositrices. Aliette Delalleux, c'est la voix de France Musique ce matin, et voici donc son choix.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Salut Jean-Baptiste et toute l'équipe de la matinale. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. J'avais envie de partager avec vous ce matin l'œuvre d'une de mes compositrices préférées, Ethel Smyth. Pour moi, j'avoue que cette période de confinement a été l'occasion d'écouter encore plus de musique et puis de continuer à creuser cette contre-histoire, celle des femmes, des génies, des créatrices, des penseuses souvent oubliées. Alors, je connaissais déjà assez bien l'œuvre d'Ethel Smyth, mais pas forcément tous les détails de la mélodie que j'ai choisie ce matin pour vous. C'est une mélodie qui s'appelle Possession. Le texte a été écrit par une autre Ethel, Ethel Kearney. Elle était journaliste, écrivaine issue de la classe ouvrière. C'est d'ailleurs la première femme ouvrière en Angleterre à publier des romans. Et ce poème, mis en musique par Ethel Smyth, est dédié, je pense que vous allez deviner, à une autre figure féminine et féministe, Emmeline Pankhurst, une femme politique qui est à l'origine du mouvement des suffragettes. Voilà, la magie de la musique pour moi c'est ça, c'est qu'en tirant quelques fils, on trouve de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, et on nourrit bien sûr nos oreilles, mais aussi nos lectures, nos réflexions, et au final nous-mêmes. Je vous laisse donc en compagnie de la mezzo-soprano Melinda Paulsen, accompagnée au piano par Angela Gassenhuber. J'espère que cette œuvre vous plaira et surtout qu'elle vous donnera envie de découvrir un peu plus de cette géniale Ethel Smyth. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci Jean-Baptiste de me tendre le micro et je vous souhaite une bonne journée. Thank you.
Possession, Possession, mélodie d'Ethel Smyth, S-M-Y-T-H, le choix ce matin d'Aliette Delalleux. C'était la mezzo Melinda Paulson avec Angela Gassenhuber au piano. France Musique, il est 8h22.
Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car. But anyway, dear, we'll stay as we are. Even if we owe the grocer, though we have fun. Tax collectors getting closer, still we have fun. There's nothing surer, the rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, ain't we got fun? Don't we have fun? Still we have fun. Even if we owe the grocer, don't we have fun? Tax collectors getting closer. What fun. There's nothing surer. The rich get rich and the poor get poorer. In the meantime, in between time, don't we have fun? It's a ball.
Quel bonheur et quelle chanteuse, Peggy Lee, en 1957, Ain't We Got Fun, chanteuse, mais elle a aussi écrit, composé des chansons. C'est une immense figure de la variété américaine qu'aimait tant Louis Armstrong, Dean Martin, Sinatra et jusqu'à Madonna. Peggy Lee, elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Elle est née le 26 mai 1920 à Jamestown, dans le Dakota du Nord, de son vrai nom Norma Deloris Ekstrom. Et rendons à César cette chanson. C'est une suggestion de l'un de nos auditeurs, Alain de l'Aveyron. Il nous a écrit, plutôt que Fever, pourquoi ne pas diffuser celle-ci? Eh bien, c'est fait. Et merci. C'est ça aussi. C'est une musique qui fait du bien. Allez, il est 8h25 quasiment. C'est le nouvel horaire de Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Alors vous adorez les contes musicaux et ce matin justement vous nous en proposez un conte créé par le festival du violoncelliste Jérôme Pernaud, Les vacances de Monsieur Haydn.
Ce festival au nom aussi sympathique que connu désormais a lieu chaque mois de septembre, fin septembre à La Roche-Posay en Poitou-Charentes depuis 2009. La 11e édition devrait bien avoir lieu à la fin de l'été, on croise fort les doigts. En tout cas, la manifestation propose en ce moment sur sa page Facebook un fort joli conte musical en feuilleton qui s'appelle « Le violon virtuose qui avait peur du vide ». Les épisodes durent une dizaine de minutes et sont postés tous les deux jours. Ce conte musical, il est né de la rencontre entre un violoniste russe, Sergueï Malov, le quatuor Aquilon, fidèle du festival, un jeune compositeur, Thomas Nguyen, et un auteur, Néric Catineau. On retrouve bien là l'esprit des projets pilotés par Jérôme Pernoud, qui a aussi créé le Centre de musique de chambre de Paris, Salle Cortot. Faire confiance à la jeune génération de musiciens et à l'énergie du collectif pour imaginer des projets décalés et poétiques. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte, ce conte? C'est l'histoire du prince Violino qui s'ennuie dans son palais et qui cherche l'aventure. Je ne vous en dis pas plus volontairement, si ce n'est qu'il va la trouver, l'aventure. C'est drôle, c'est bien écrit. La musique est magnifique et chaque épisode se termine par un petit quiz. En faut-il davantage pour vous convaincre d'aller jeter une oreille? Et puis parce qu'on a tort vraiment de croire que les contes musicaux sont réservés aux enfants, je vous glisse une autre suggestion. C'est Anniken et le troll du palais de glace, un conte musical inspiré de la musique de Peer Gynt de Grieg, réalisé par France Musique pendant le confinement, écrit et conté par Anne-Charlotte Raymond. C'est un petit bijou. J'espère en tout cas que vous aurez le temps d'écouter ces deux contes qui sont de vrais bonbons pour l'imagination.
Et ça peut être utile pour les enfants qui ne sont pas tous rentrés à l'école. On récapitule, le violon virtuose qui avait peur du vide, ça c'est le conte musical à retrouver sur la page Facebook du festival Les Vacances de Monsieur Haydn. Et puis vous nous parliez aussi de Anniken et le troll du Palais des Glaces, ça c'était à réécouter sur francemusique.fr dans le cadre de l'émission Musicopolis d'Anne-Charlotte Raymond et sur la musique de Peer Gynt de Grieg. Suzanne, si vous aviez un extrait de Peer Gynt à écouter ce matin, ce serait quoi?
Je pense que ce serait la chanson de Solveig.
Bon, vos rêves sont exaucés, voici la chanson ou en tout cas l'air de Solveig. À demain Suzanne. Grieg, le thème de Solveig, ici à l'acte 5 de Peer Gynt, la voix de Camilla Tilling, l'Orchestre Symphonique National d'Estonie, dirigé par Paavo Järvi, et donc ce conte à réécouter sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musicopolis, d'Anne-Charlotte Raymond.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Le silence des orchestres, oui, mais jusqu'à quand? C'est la question que pose Mathieu Schneider dans une tribune parue il y a quelques jours dans Libération. Cet historien de la musique, Mathieu Schneider, s'interroge sur les conditions de la reprise d'une activité symphonique en France. Il sera notre invité dans 20 minutes. Connaissez-vous Cyrillus Kreek, cet Estonien qui a composé au XXe siècle, est à l'honneur du nouveau disque de l'ensemble Vox Clamentis. C'est notre nouveauté et c'est vers 8h45. Et puis, 170 compositrices et compositeurs qui se réunissent. Ils viennent de créer une fédération professionnelle. Mais dans quel but? On voit cela avec Sophie Anastasio dans 10 minutes. Mais pour l'heure, France Musique, il est quasiment 8h30. L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La journée 100% voiture du chef de l'État Emmanuel Macron qui voit ce matin le patron de Renault puis tous les acteurs du secteur automobile dévoilera cet après-midi dans le Pas-de-Calais un plan de soutien qui s'annonce massif. On s'attend notamment à des coups de pouce pour que les Français achètent des voitures neuves qui polluent le moins possible avec des primes alléchantes à la clé. L'État espère ainsi enrayer la crise qui frappe durement les constructeurs tricolores et leurs sous-traitants. Une crise qui, à l'heure de la mondialisation, Louise Baudet se moquait éperdument des frontières et des continents.
En Europe, la chute est vertigineuse, moins 76% sur un an, effondrement impossible à rattraper cette année, même en cas de forte reprise. En Chine, en revanche, premier marché automobile mondial, la pandémie s'estompe et les affaires reprennent. La crise n'est donc pas uniforme et elle frappe surtout les constructeurs déjà fragilisés. Ainsi, Renault et son allié Nissan, hier leader mondiaux, plombés par leur choix stratégique et la cavale de Carlos Ghosn. Le constructeur japonais s'apprête à supprimer 20 000 emplois, soit 15% de ses effectifs. À la clé, des fermetures d'usines que les États s'efforcent d'éviter en garantissant des prêts massifs, plus de 6 milliards envisagés en Italie. Problème, Fiat Chrysler s'apprête à distribuer 5 milliards de dividendes records à ses actionnaires. Même scénario en Allemagne qui hésite à financer une prime à la casse en soutien à BMW, Volkswagen et Daimler. Quant aux Big Three américains, General Motors, Ford et Chrysler, ils sont pour l'heure exclus du plan de relance de 2900 milliards de dollars, faute de visibilité sur le comportement des consommateurs outre-Atlantique.
Le groupe Korian promet une prime de 1500 euros au personnel des EHPAD qui travaille pour lui. Elle sera versée cette prime au mois de juillet. Plusieurs syndicats avaient appelé dès hier les salariés à se mettre en grève pour obtenir gain de cause. Un changement de rythme, mais pas de changement de cap. Édouard Philippe promet aux professionnels de santé d'importantes décisions pour le mois de juillet. En prélude à la concertation lancée hier rue de Ségur à Paris, le chef du gouvernement a plaidé pour des changements radicaux. Il y aura une revalorisation significative des salaires, a dit le Premier ministre, qui estime dans la foulée que la question des 35 heures à l'hôpital n'est pas, selon lui, un tabou. L'OMS tire les leçons de l'étude publiée la semaine dernière par la revue médicale britannique de Lancet. L'Organisation mondiale de la santé décide de suspendre par précaution l'hydroxychloroquine de deux grands essais cliniques actuellement en cours. La chloroquine et ses dérivés sont en effet considérés comme inefficaces, voire néfastes pour les personnes hospitalisées. Dans les colonnes du Figaro ce matin, le professeur Raoul, qui a popularisé ce médicament, estime que l'étude en question est foireuse parce qu'elle a été rédigée, dit-il, par des gens qui n'ont pas vu de patients. Nous en parlions hier matin dans ce journal. Les chasseurs pourraient bien reprendre leurs fusils dès la semaine prochaine, profitant ainsi d'un geste du gouvernement en leur faveur. C'est en tout cas ce que redoutent plusieurs associations de défense de l'environnement et de protection des animaux. La pétition qu'elles ont lancée en ligne a déjà recueilli plus de 67 000 signatures. Pour Pierre Athanase, qui était avec d'autres à l'origine de cette initiative, la cohabitation entre les vacanciers et les partisans de la chasse s'annonce pour le moins compliquée, surtout si le déconfinement s'accélère. Il le dit au micro de Véronique Reberotte.
dès le 1er juin et pendant tout l'été et jusqu'à l'ouverture générale en septembre et là jusqu'à février, les chasseurs vont pouvoir tirer des chevreuils et des sangliers pour commencer, puis tout le reste du gibier ensuite, ce qui veut dire que les campagnes vont être occupées à nouveau par les chasseurs. Et alors que les gens qui ont subi 2 mois de confinement aspirent de plus en plus à être dans la nature, on sait que cet été les gens vont se rabattre sur la campagne apparemment, et ben vont être confronté à des tirs à balles en plus. C'est vraiment du gros gibier qui va être tiré pendant l'été, donc des tirs qui sont très très dangereux. Donc il y a ça, et puis c'est l'impact sur la faune sauvage. Une faune dont on sait qu'elle est en péril, dont tout le monde nous dit qu'il faut faire attention à la biodiversité, et qu'on laisse aux chasseurs par pur clientélisme, par calcul électoral certainement, alors que toutes les décisions sont prises en retard actuellement suite à la crise sanitaire. On attend des dossiers de mise en protection de réserves naturelles, de choses comme ça. Tout est bloqué et pour les chasseurs, il y a des passe-droits qui sont absolument inadmissibles.
Le scandale du Dieselgate coûte décidément très cher à Volkswagen. Le groupe allemand va devoir indemniser tous les propriétaires de voitures dont les moteurs ont été truqués et qui ont porté plainte, soit environ 60 000 personnes outre-Rhin. C'est une décision de la Cour fédérale de justice. Cette affaire a déjà coûté à Volkswagen 30 milliards d'euros, notamment aux États-Unis. Un gage d'amitié pour le régime de Nicolas Maduro et un affront pour les États-Unis. Un pétrolier iranien vient en effet d'arriver au Venezuela qui connaît une pénurie d'essence à cause des sanctions américaines. Le navire va livrer l'une des plus grandes raffineries du pays. Quelques nuages sur le nord-est, le soleil dominera partout ailleurs, les températures de 9 à 19 degrés ce matin, de 21 à 30 degrés cet après-midi, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré, à demain, Olivier. Dans l'actualité aussi, plusieurs musées qui rouvrent aujourd'hui dans des conditions tout à fait particulières avec réservation en ligne obligatoire, des masques aussi, contrôle de température à l'entrée, mais avec toutes ces précautions, vous pouvez à nouveau visiter à partir d'aujourd'hui à Paris, au musée Jacquemart-André, l'exposition Turner, peinture et aquarelle par exemple. Les Beaux-Arts sont de retour et le Beaux-Arts Trio est sur France Musique.
Thank you.
Haydn, le final presto du trio en ut majeur avec le Mozart trio Menahem Pressler au piano. Il a 96, je crois peut-être 97 ans même maintenant. Bernard Greenhaus au violoncelle et c'était Isidore Cohen au violon, l'une des plus célèbres formations à trois de l'histoire du disque. Leurs enregistrements de Beethoven sont à écouter ce soir à 17h avec Aurélie Moreau, de retour en direct en studio pour son Van Beethoven, la seule émission de radio consacrée au grand Ludwig. France Musique, 8h40. Et voici la grande Sophia, Classique Info. Bonjour Sophia Anastasio.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec la disparition de l'immense batteur Jimmy Cobb.
C'était le dernier survivant des musiciens ayant enregistré le mythique Kind of Blue de Miles Davis et c'est donc à lui que l'on doit ce coup de cymbale après la minute 30 d'introduction de So What. Jimmy Cobb est mort dimanche dernier à l'âge de 91 ans. Originaire de Washington, arrivé à New York en 1950, il avait d'abord intégré le quintet de Cannonball Adderley, début d'une carrière qui s'inscrira ensuite dans l'histoire du jazz.
Les compositeurs et compositrices résidentes en France créent une fédération professionnelle.
La lettre du musicien en a publié hier la tribune fondatrice. Elle réunit près de 170 signataires. Leur objectif est de participer à la réflexion relative au statut des artistes, contribuer à sa reconnaissance et veiller à l'action des pouvoirs publics.
En Autriche, le festival de Salzbourg dévoile la forme de sa version 2020.
Une version réduite qui se tiendra du 1er au 30 août avec 90 représentations au lieu de 200. Le programme détaillé sera révélé début juin.
Une réouverture pour le Puy du Fou, puis du Flou pour les festivals.
C'est à lire dans le journal Libération. Ce matin, le parc à thème de Philippe de Villiers va rouvrir ses portes à partir du 11 juin, tandis que les autres producteurs et diffuseurs de spectacles meurent de ne pas savoir. C'est une immense solitude et un désarroi mêlé d'indignation pour Paul Fournier, président de la Fédération France Festival. Une impression générale de favoritisme qui mettrait en lumière le manque de responsabilité du gouvernement, avec une question douloureuse. Et si face au manque de cadre, les festivals avaient jeté l'éponge trop rapidement.
Et c'est avec une immense incertitude que les musiciens préparent leur retour sur le chemin des salles, Sophia.
Il a d'abord fallu faire le deuil des engagements annulés. 77 concerts sur une période de 6 mois pour le Quatuor Ébène, rapporte le Figaro, qui consacre ce matin un article aux ensembles chambristes. Ces derniers auront un rôle déterminant à jouer dans la reprise des concerts, alors que les orchestres doivent faire face à des problématiques de distanciation. C'est en relation avec un infectiologue que l'Orchestre National de Bordeaux, Aquitaine, tente de refaire surface, c'est à lire dans le journal Le Monde. En attendant cette reprise incertaine, des musiciens continuent de proposer individuellement des alternatives. Dans Le Parisien, le violoncelliste Gauthier Capuçon se propose de répondre aux appels des municipalités cet été et de venir jouer partout en France, sur une place, devant un monument ou dans un champ. Et d'un Capuçon à un autre, c'est dans la presse également ce matin. Renaud Capuçon, le violoniste donc, a été nommé directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Lausanne à compter de la saison 2021-2022.
Et oui, un Capuçon peut en cacher un autre. Classique Info, Sophia Anastasio, à retrouver aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. À demain, Sophia.
À demain.
Et vous le disiez, Jimmy Cobb est mort à 91 ans. Légendaire batteur de jazz, il était le dernier survivant du non moins mythique album Kind of Blue, 1959. Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, Julian Cannonball Adderley, Wynton Kelly et donc Jimmy Cobb. Sacrilège, quelques notes, All Blues, The Kind of Blue, avec Jimmy Cobb à la batterie. Vous pouvez réécouter sur francemusique.fr le feuilleton que Thierry-Paul Benizot a consacré l'été dernier à cet album mythique de l'histoire du jazz.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, on part pour l'Estonie avec la harpe suspendue de Babel. C'est le titre du nouveau disque de l'ensemble Vox Clamantis. Les chanteurs estoniens y ont enregistré la musique de leur compatriote, Cyril Ouskrek, j'espère que je prononce bien, compositeur né en 1889, mort en 1962. Il s'inspire du folklore balte, il mêle aussi des influences sacrées orthodoxes. Une musique presque hypnotique, claire et profonde, comme ici dans ce « He who lets God prevail », « Lui qui laissera Dieu régner », tiré d'une musique populaire estonienne. Un moment suspendu comme le titre de ce disque, la harpe suspendue de Babel de l'ensemble Vox Clamantis est sorti chez ECM, disque qui fait revivre la musique traditionnelle estonienne grâce au compositeur Cyril Ouskrek. France Musique, il est 8h49, voici notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité est historien de la musique, maître de conférences et vice-président de l'Université de Strasbourg. Bonjour Mathieu Schneider.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Il y a quelques jours, vous avez écrit une tribune remarquée, publiée par Libération. On peut d'ailleurs la lire en accès libre. Tribune en forme de question. Son titre, Le silence des orchestres, jusqu'à quand? Vous vous inquiétez de l'arrêt de tous les concerts depuis plus de 2 mois et notamment des concerts symphoniques qui pourraient ne pas reprendre dans des conditions habituelles avant un moment en raison des mesures sanitaires, de la distance physique, des gestes barrières. D'abord, vous qui êtes historien de la musique, un tel arrêt, c'est inédit?
Bah oui, justement, c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire moderne. Hein. Je suis remonté jusqu'au début du 19e siècle, c'est la période à laquelle je m'intéresse, et force est bien de constater qu'on a eu de nombreuses épidémies en Europe et en France, notamment le choléra hein, qui a sévi en 1832, 1854, faisant 150 000 morts en France, en 1882, et jusqu'à la grippe espagnole de 1918-1919, et à aucun de ces moments, la vie culturelle, la vie sociale d'ailleurs, ne s'est arrêtée. Et je pense que si il y a un danger effectivement de vouloir plaquer l'histoire dans l'actualité contemporaine, je pense que l'histoire peut nous interroger sur à la fois les solutions qui ont été mises en œuvre et peut-être aussi nous rappeler que la musique et la culture sont quelque chose d'absolument fondamental dans la société et que qui était possible aujourd'hui, finalement, en 2020, puisqu'on a vu qu'on a arrêté les salles de concert, mais la musique a continué. On a fait de la musique sur votre antenne, on a fait de la musique sur Internet, on a vu YouTube, etc. Mmh. C'était complètement impensable au 19e siècle, et donc c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles on n'imaginait pas faire cela. Je pense aussi qu'il y a un autre rapport à la maladie et à la mort. Évidemment, les épidémies faisaient rage assez régulièrement. On avait beaucoup de maladies infectieuses qui régulièrement contaminaient une grande partie de la population. Et si on avait arrêté la vie musicale à chaque fois qu'une épidémie se glissait, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup joué au 19e siècle.
Vous rappelez d'ailleurs dans votre tribune, Mathieu Schneider, vous écrivez « Nous serons tous asphyxiés par notre propre hystérie sécuritaire. À vouloir éliminer tout risque, on éliminera la vie et l'on réduira la musique au silence. » Alors, quels risques sont envisageables, selon vous?
Je crois qu'aujourd'hui, on commence à voir quelques risques se dessiner de manière très concrète. On n'a pas encore de protocole sanitaire formalisé, à ma connaissance. En France, hein, c'est-à-dire de normes sur les distanciations au sein des orchestres. En Allemagne, il y a déjà des documents qui ont circulé, en Autriche aussi. Et ces documents montrent que voilà une distance d'un mètre cinquante à deux mètres entre chaque musicien, voire un peu plus pour les cuivres, des protections en plexiglas pour les instruments avant, rendent d'un point de vue pratique la pratique symphonique et au-delà de ça même la pratique lyrique dans nos salles absolument impossible. Au maximum, on pourrait espérer jouer sur une grande scène un Mozart, mais il y a toute une partie du répertoire symphonique du 19e siècle et au-delà qui est condamné. Au-delà de ça, ça pose pour moi des problèmes esthétiques. Je crois que si la création contemporaine peut s'emparer de ces normes, au fond, et jouer avec, comme on a joué avec les règles d'harmonie à la fin du 19e siècle, comme on a joué avec des contraintes pesant sur la musique religieuse ou autre dans les siècles passés, je suis plus inquiet pour le patrimoine musical qui, notamment dans les dernières années, est rentré dans une logique, disons, d'authenticité. On voit bien les ensembles de musique ancienne d'abord, et puis maintenant, ça va quasiment jusqu'au 19e siècle, on cherchait des pratiques qui étaient proches des pratiques d'époque, donc avec des instruments anciens, avec la recherche d'un son. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce pan de la musique est absolument mis à mal par des normes qui viendraient imposer une distance, un effectif, une répartition dans l'espace, qui sont absolument contraires à ces principes-là.
D'ailleurs, vous rappelez que les grandes épidémies ou pandémies ont souvent coïncidé avec des grandes créations.
Oui, c'est ce que je rappelle, en effet. Enfin, je pense pas que l'épidémie était un catalyseur des énergies créatives. Si on prend, par exemple, l'épidémie de choléra de 1854, hein, effectivement, en pleine épidémie, Meyerbeer crée son Étoile du Nord, qui, on l'a un peu oublié cet opéra aujourd'hui, mais c'est un très grand succès à l'époque. Il a tourné sur plus de 60 scènes en Europe. Et c'est vrai que ces épidémies n'ont absolument pas empêché la création, loin de là. D'ailleurs, quand il a créé l'Étoile du Nord, il avait une grande crainte, c'était que la guerre de Crimée, qui aurait mobilisé une partie de la population, empêche effectivement la première représentation de son œuvre. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un danger pour nous à la question de la norme. Je pense que la norme risque de nous être à terme plus préjudiciable que la maladie elle-même.
Merci Mathieu Schneider, historien de la musique, maître de conférences et vice-président de l'Université de Strasbourg. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je renvoie à cette tribune donc parue dans Libé, Le silence de nos orchestres jusqu'à quand ? Et en attendant le retour sur scène et en public, il y a aussi le disque. Voici l'orchestre philharmonique de chez vous, de Strasbourg. Il joue le strasbourgeois Émile Weiteufel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous Jean-Baptiste Urbain. Au revoir.
Au revoir. Grande vitesse, Émile Weiteufel, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Theodor Guschelbauer. C'est la fin de Musique Matin. C'était Xavier Attau à la console et Emmanuel Dupuis un peu plus loin à la cabine. Yacine Bouzard à la réalisation. Marion Guillemet, Thaïsia Froidure et Margot Muller à la coordination. Demain, notre invitée sera la violoniste Lia Petrova. Elle se lance dans des concerts sans public ces prochains jours, salle Cortot à Paris. Et les voici en piste, Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer avec un jeune pianiste qui rend hommage à une légende, Léopold Godowski. Et ce pianiste, c'est André Gougnine. C'est un habitué des répertoires virtuoses et techniques. Et il le prouve ici, mais on va faire énormément de découvertes. C'est même notre disque du jour.
J'écoute tout de suite.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.